Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Durant ses presque 90 ans de vie, Michel-Ange a incarné le génie absolu en matière de sculpture et d'architecture. Avec Léonard de Vinci et Raphaël, il constitue le trio qui a fait la gloire immortelle de la Renaissance italienne. Ses relations avec la papauté ont été houleuses. Artiste intransigeant, il a peu sacrifié aux caprices de ses commanditaires et a toujours fini par imposer ses vues au risque de subir le bannissement. Son chef-d'œuvre pictural est assurément la décoration de la chapelle Sixtine, qu'il a achevé en 4 ans pour le compte du pape Jules II. C'est ce moment de sa vie que je vous propose de découvrir dans cet épisode en 2 parties. Première partie, Jules II et Michel-Ange, 2 fortes têtes. 31 octobre 1512, le pape Jules II entre en trompe dans la chapelle Sixtine, où Michel-Ange est en train d'évaluer du regard le travail restant à accomplir. Il est loin d'être satisfait du résultat des 20 mois de travail écoulés. Et les colères du souverain pontife sont sur le point d'avoir raison de sa patience. Car le pape est pressé. À presque 70 ans, il sent sa mort prochaine. Il ne veut pas quitter ce monde sans avoir pu célébrer une messe d'inauguration dans la chapelle dont il a ordonné la décoration, sans doute plus pour sa propre gloire que pour celle du Très-Haut. Il jette un œil courroucé sur le peintre.
« Quand tout cela sera-t-il fini ?»
Michel-Ange répond aussitôt que tout cela sera fini quand lui, auteur de ses peintures, sera satisfait de son travail. Jules II ne se contient plus.
« Nous voulons nous aussi être satisfaits, et immédiatement, sans quoi ?»
Michel-Ange, excédé, ordonne aussitôt le démontage des échafaudages qui encombrent la chapelle. « Ah, vous voulez une décoration inachevée? Eh bien, la voilà !» Puis l'artiste quitte les lieux, en grommelant à voix basse, dans sa barbe, quelques malédictions. Le lendemain, 1er novembre 1512, Jules peut enfin célébrer la messe de Toussaint qu'il appelait de ses vœux. Toute la curie romaine assiste à l'office, mais chacun a bien du mal à détacher des voûtes de la chapelle son regard stupéfait et émerveillé. Cette chapelle Sixtine, c'est le dernier caprice de Jules II. D'un caractère intransigeant et impitoyable, c'est un pape qui sait manier le fer autant que la prière. Il mène ses ouailles à la baguette, ses ouailles, c'est-à-dire ses fidèles, ses paroissiens. En l'occurrence, il a eu raison de presser les choses pour la chapelle Sixtine, car il s'éteint en 1513, soit 1 an après cette première messe qu'il y a fait célébrer. Le terme de chapelle ne rend pas compte de la nature réelle de l'édifice. C'est en fait une église à part entière, construite en 1475 par l'oncle de Jules II, le pape Sixte IV. Toutes sortes d'ornements ont été entrepris pour lesquels on a convoqué la fine fleur de la Renaissance italienne. Le Pérugin, Botticelli, Ghirlandaio. Mais il reste encore à décorer l'immense voûte et les façades internes de l'entrée et du cœur de l'église. Pour désigner l'artiste qui s'occupera de ce travail, Jules II a l'embarras du choix. À côté de la vieille garde, représentée par Léonard de Vinci et Bramante, des personnalités comme Raphaël font leur apparition remarquée, tandis que Michel-Ange règne en maître quasi absolu sur l'architecture et la sculpture. La puissance de ses compositions a depuis longtemps conquis Jules II, qui lui passe de multiples commandes. En 1503, au moment de l'accession de Jules II au trône de Saint-Pierre, Michel-Ange a 28 ans. Depuis l'achèvement de sa célébrissime Pietà, il a acquis la réputation d'être l'un des plus grands sculpteurs de tous les temps. Ce groupe sculpté, représentant la Vierge Marie éplorée tenant dans ses bras son fils crucifié, est l'œuvre d'un jeune homme de 23 ans. Pourtant, à la différence de certains de ses collègues comme l'architecte Bramante, Michel-Ange n'est pas homme à fanfaronner ni à se faire valoir. C'est un être discret, à la fois ombrageux et colérique. Quand on lui demande par quelle magie il a pu créer une œuvre sublime comme sa Pietà, il répond qu'il a simplement enlevé du bloc de marbre tout ce qui était superflu. Ses assistants décrivent un homme frappant au burin avec rage, comme s'il voulait dégager, libérer de la pierre un objet qui s'y trouvait emprisonné. Lorsque Jules II fait appel à lui, c'est pour lui demander de proposer un projet pour son tombeau qu'il souhaite monumental. Quelques jours plus tard, Michel-Ange lui présente des esquisses qui enthousiasment le Saint-Père. Accompagné de quelques assistants et de chevaux, l'artiste se rend aussitôt dans les carrières de Carrare pour en extraire le marbre nécessaire. Il va en falloir une très grande quantité, car le projet de Michel-Ange prévoit, outre le mausolée lui-même, un ensemble de 40 statues. Jules II a vu grand. Certains empereurs romains mégalomanes comme Néron ou Caligula ne se seraient pas comportés différemment. Son ambition de faire des États pontificaux le centre du monde chrétien lui a d'ailleurs valu le surnom de Jules César II. Il considère que le monument destiné à recevoir sa dépouille mortelle doit être à la hauteur de sa vision. La démesure d'une entreprise que le pape envisage de confier à un seul artiste suscite assez rapidement des jalousies dans le petit monde romain. Bramante, notamment, ne supporte pas de se voir souffler cette commande, lui qui est le concepteur principal de la basilique Saint-Pierre, dont les murs sortent alors à peine de terre. Sur la place Saint-Pierre, les marbres rapportés par Michel-Ange occupent quasiment tout l'espace. Jules II fait de Michel-Ange son intime. Il va jusqu'à faire déposer des planches entre ses appartements et ceux du sculpteur pour lui permettre de lui rendre visite quand il le souhaite. Bramante se consume entre dépit et jalousie. Il veut mettre un terme à cette amitié qui, selon lui, met en péril sa carrière pourtant finissante. Et puisqu'il est de la même génération que Jules II, il a juste un an de plus que lui, il se décide à lui parler pour en finir avec ce rival gênant. La jalousie s'est usée de tous les artifices pour raviver sa flamme. Bramante explique au pape qu'il n'est pas convenable de faire ériger un mausolée alors qu'on est encore en vie. C'est même un grave péché. Le pape, contre toute attente, se montre sensible à l'argument. Et de fait, il renonce à faire construire son tombeau. Michel-Ange, indigné, piqué au vif, décide de quitter Rome, non sans avoir demandé au pape de lui rembourser les sommes qu'il a avancées. Mais Bramante n'a pas l'intention d'en rester là. Il veut à tout prix que Michel-Ange soit écarté définitivement de toute réalisation à Rome. Il n'y a pas là qu'une simple jalousie. Depuis des mois, son jeune rival émet de fortes réserves quant aux fondations de la basilique Saint-Pierre. Il a ouvertement critiqué le choix des marbres, les partis pris architecturaux qu'il juge déficients. L'avenir lui donnera d'ailleurs raison. Quelques années après l'achèvement de la basilique Saint-Pierre, il faudra procéder à d'importantes rénovations dans ses soubassements. En éloignant Michel-Ange du Vatican, Bramante supprime un témoin de ses maladresses. Il va cependant trouver encore mieux pour ôter toute chance à l'auteur de la Pietà de retrouver du travail auprès du pape. Jules II, en effet, en avançant en âge, multiplie les commandes pour consacrer son accession à la postérité. Entre autres lubies, voilà maintenant qu'il veut faire décorer le plafond de la chapelle de Sixte IV, appelée Sixtine, dont l'austérité lui semble inadmissible. C'est dans cette chapelle que la curie romaine célèbre ses messes solennelles. Il faut la rendre digne de la gloire de l'Église. Bramante entend parler de ce projet de décoration. Son neveu, le génial Raphaël, lui paraît tout désigné pour cet ouvrage. À 20 ans, il est connu pour avoir peint un nombre impressionnant de tableaux qui tous sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Pour arriver à ses fins, Bramante, en tacticien habile, ne propose pas directement son poulain au pape. Il sait que Jules II caresse encore l'idée de faire travailler Michel-Ange. Or, pour tout le monde romain de l'époque, Michel-Ange est sans doute le plus grand sculpteur et un architecte de génie. Mais il n'est pas peintre. Lui-même, d'ailleurs, ne s'est jamais considéré que comme un dessinateur, un faiseur d'esquisses. En suggérant son nom pour peindre la chapelle Sixtine, Bramante s'attend tout simplement à ce que le pape, sachant Michel-Ange incompétent pour un tel ouvrage, écarte de lui-même sans hésitation l'idée de lui confier cet important chantier. Bramante pourra alors avancer le nom de Raphaël. Hélas pour lui, contre toute attente, Jules II se montre enthousiasmé par la proposition. Ce que Bramante ignore, c'est que le pape a vu les esquisses présentées par Michel-Ange pour son mausolée. En amateur d'art éclairé, il a immédiatement saisi la vigueur et l'élégance des traits à la mine de plomb, la force des compositions, la puissance des corps dessinés. Oui, vraiment, Michel-Ange est l'homme de la situation. Et c'est pour le pape l'occasion rêvée de regagner la confiance de son protégé. Entre les deux hommes, les rapports sont passionnels. Ils ont de nombreux points communs, tant par le caractère que par les convictions. Michel-Ange est connu pour sa grande piété. C'est en outre un homme prude, très attaché à la pureté de sa conduite. À ses yeux, la chasteté nourrit un lien intime avec la beauté, au point qu'il ne peut les dissocier. À l'un de ses élèves qui lui demande ce qui a inspiré la perfection des traits de la Marie de sa Pietà, il répond que la chasteté seule est belle. Sans cette vertu, la beauté n'est qu'un masque. Une telle disposition d'âme ne peut que plaire à un prélat, aussi corrompu soit-il. Jules II rappelle donc Michel-Ange auprès de lui. Ce dernier est d'ailleurs en train de mettre la dernière main à un projet de sculpture monumentale du pape, haute de près de 6 mètres. Jusqu'à présent, il n'a encore présenté au pape que le modèle en terre. Le pape a examiné le prototype sous toutes ses coutures, avec un mélange d'admiration et d'agacement. Représenter le bras droit levé, le pontife est privé de bras gauche, car Michel-Ange hésite encore sur l'objet qu'il va lui faire tenir. « Pourquoi pas un livre ?» suggère Michel-Ange.
« Placez-y plutôt une épée. Je ne suis pas un homme de lettres. »
répond le pape. Puis, indiquant la main droite levée du modèle, il ajoute narquois.
« Cette main est-elle en train de donner une bénédiction ou une malédiction ?»
Une fois de plus, le projet va avorter. Jules II, qui ne s'embarrasse pas de refuser un projet sur lequel Michel-Ange a déjà tant travaillé, lui propose alors de décorer la fameuse chapelle Sixtine. Michel-Ange commence par refuser. Il explique qu'il ne connaît rien à la technique de la fresque, qu'il ne maîtrise pas la couleur, bref, qu'il ne sait pas peindre. Il va même combler les espérances de Bramante en suggérant au pape d'engager Raphaël. Mais le pontife reste inflexible. C'est lui, Michel-Ange, qui peindra la Sixtine. Le sculpteur a eu plus d'une fois l'occasion de subir la colère du pape. Il sait qu'il y a une limite à ne pas dépasser avec lui. Alors qu'il invoque une nouvelle fois son incompétence, un prélat s'approche de Jules II et lui dit
« Votre sainteté, pourquoi aller contre la volonté de cet homme qui confesse son ignorance? Laissez-le aller et prenez donc Raphaël, comme il vous le propose. »
Le pape entre alors dans une de ces crises de folie furieuse qui terrorise son entourage.
« Quoi ? Vous osez dire que Michel-Ange est ignorant? C'est vous l'ignorant! Disparaissez de ma vue immédiatement et ne remettez plus jamais les pieds ici !»
En joignant le geste à la parole, il chasse le malheureux à coups de poing, puis à coups de pied, puis à coups de pierre. De mauvaise grâce, Michel-Ange accepte le chantier. Au début de l'année 1508, les travaux commencent. Bramante, déjà déconfit par l'échec de son plan, se voit attribuer par le pape la charge humiliante de construire les échafaudages nécessaires aux travaux. Il n'est pas au bout de ses peines. Les deux hommes se retrouvent dans la nef. Bramante, d'un ton péremptoire, explique à Michel-Ange comment il va procéder.
On va ériger un plancher pour vous permettre de peindre le plafond. Et pour cela, on tendra des cordages depuis les orifices pratiqués dans la voûte.
À peine a-t-il fini son explication que Michel-Ange commande sèchement.
Et quand on aura fini et que tout sera démonté, comment bouchera-t-on les trous ?
Bramante, excédé, quitte la chapelle. L'histoire vient aux oreilles du pape. Qu'à cela ne tienne, c'est Michel-Ange lui-même qui construira son échafaudage. Après tout, il est aussi architecte. De fait, Michel-Ange met au point en un tournemain un système de suspension très ingénieux, isolé du mur, en utilisant un réseau de contre-fiches. Les contre-fiches sont des poutres associées en réseau. On les utilise encore de nos jours. Ce sont d'ailleurs elles qui ont servi de combustible à la flèche de Notre-Dame lors de l'incendie qui a détruit sa voûte. Comment va se dérouler le travail de Michel-Ange dans cette monumentale entreprise où il engage sa réputation ? Comment va-t-il venir à bout de contraintes techniques qu'il avouait ne pas connaître et ne pas maîtriser ? Quelle sera la réaction de Jules II, puis de ses successeurs, après l'achèvement de son travail ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de cet épisode.